Bonjour, c'est Axel Le Tarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. Tous les assaillants ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de fuir vers l'Ukraine. Vladimir Poutine a pris la parole après le terrible attentat de Moscou hier soir qui a fait 133 morts. Mais le chef du Kremlin n'a pas cité une seule fois l'État islamique qui a pourtant revendiqué par deux fois cet attentat. Non, Vladimir Poutine a dénoncé des étrangers qui tentaient de fuir vers l'Ukraine, dit-il, ajoutant même qu'un passage avait été préparé du côté ukrainien pour permettre de franchir la frontière russe. Menaçant, le chef du Kremlin a puni, je cite, « de punir ceux qui sont derrière ces terroristes ». Comment interpréter ce doigt pointé vers l'Ukraine qui, de son côté, nie toute implication et s'inquiète de la réaction du Kremlin? Que cherche Vladimir Poutine? Comment la population russe réagit-elle? C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Attentat de Moscou, Daesh revendique, Poutine pointe l'Ukraine ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Wassim Nasr. Vous êtes journaliste spécialiste des mouvements djihadistes à France 24. Votre livre « État islamique, le fait accompli », c'est aux éditions Plomb. Alban Micosi, vous êtes grand reporter à France Télévisions. Vous avez été correspondant à Moscou. Manon Loiseau, vous êtes journaliste, réalisatrice, spécialiste de la Russie. Vous avez été correspondante à Moscou pendant 10 ans et vous êtes la co-réalisatrice du documentaire « Ukraine sur les traces des bourreaux ». Et enfin, Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques, auteur de « Géostratégiques 2, les grands enjeux du monde contemporain ». C'est chez Duno Graphique. Merci de participer à cette émission en direct. Manon Loiseau, d'abord, vous avez été frappé en écoutant Vladimir Poutine. C'est vous qui m'avez fait remarquer que pas une fois, il n'ait cité l'État islamique. En revanche, il a parlé plusieurs fois de l'Ukraine cet après-midi.
Il a parlé plusieurs fois de l'Ukraine et cela n'augure rien de bon. Moi, ça me rappelle vraiment ce qui s'est passé au moment de la Tchétchénie. Il y a eu des attentats, il y avait eu des attentats en 99 à Moscou et ça avait servi le Kremlin pour envahir la Tchétchénie. Donc en l'entendant, j'ai eu un retour en arrière de cette rhétorique du Kremlin qui désigne l'ennemi peut-être pour passer à une phase plus importante de l'offensive. Il n'y a qu'un ennemi en ce moment pour Vladimir Poutine et pour le Kremlin. C'est Zelensky et c'est l'Ukraine et c'est l'OTAN. Donc d'ailleurs très tôt, avant même que Poutine ne parle, l'ancien président Medvedev avait aussi désigné l'Ukraine.
S'il est établi, oui. Alors c'était avant la revendication de l'État islamique. Medvedev avait dit s'il est établi qu'il s'agit de terroristes du régime Kiev, ils devront tous être retrouvés et annihilés sans pitié comme des terroristes.
Absolument. Et moi j'ai regardé toute la nuit les chaînes Telegram pro-russes comme de l'opposition. Margarita Simonian, la patronne de Russia Today, a alimenté toute la nuit cette théorie que Kiev était derrière. Et donc, quand enfin Vladimir Poutine prend la parole et dit qu'ils allaient trouver refuge en Ukraine et c'était organisé, leur fuite était organisée côté ukrainien. Voilà, c'est très inquiétant. On connaît ça aussi. On a vécu
ça
aussi.
Pour préparer les esprits à peut-être
un passage à une offensive supérieure dans un contexte où, en plus, depuis 3 jours, il y a des bombardements très très intenses en Ukraine sur Kiev, sur Kharkiv et sur beaucoup de villes.
Alors, Wassim Nasr, deux questions. Un, d'abord, est-on bien sûr que c'est l'État islamique qui est derrière cet attentat? Et deux, peut-on imaginer que l'État islamique est pour base arrière l'Ukraine, comme l'affirme Vladimir Poutine, puisqu'effectivement, ils auraient été arrêtés, si c'est bien eux, dans la région de Bryansk, qui est frontalière avec l'Ukraine et la Biélorussie?
Déjà, premièrement, il faut imaginer que c'est un revers pour les autorités russes, qu'elles essayent de retourner à leur avantage en désignant l'ennemi ukrainien et en capitalisant sur cet attentat qui a eu lieu en banlieue de Moscou. Ça, c'est en premier lieu. Ce n'est pas étonnant qu'ils essaient de faire ça, donc sortir d'une situation de faiblesse subie, pour transformer cela en quelque chose de positif pour eux dans leur campagne contre l'Ukraine. Ceci dit, la revendication est venue via les canaux officiels de l'État islamique. Et ça veut dire qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Quand on regarde la revendication, la syntaxe qui a été dit dedans, dans la première revendication, comme quoi l'attaque a été commise, et ceux qui ont commis l'attaque étaient retournés sains et saufs, avant même qu'on sache qu'est-ce qui se passait vraiment, alors qu'il y avait des rumeurs comme quoi ils étaient arrêtés, là je parle d'hier soir, et puis aujourd'hui il y a une autre revendication, il y avait plus de détails.
– Avec une photo ?–
Avec une photo et le mode opératoire, ça veut dire qu'ils étaient 4, 3 sont rentrés tuer des gens, égorger des gens, un a utilisé des bombes incendiaires pour brûler le théâtre, et ils rappellent, parce qu'eux aussi ils sont conscients de tout ce qui se dit autour de ça, dernière phrase en disant « ceci rentre dans le cadre habituel de notre guerre avec les États qui combattent l'islam ». Donc eux, ils ont leur projet. Après, comment Poutine tourne ça à son avantage, c'est de bonne guerre, j'ai envie de dire. Mais la responsabilité des États islamiques, il n'y a aucun doute sur cette responsabilité et sur ce qui s'est passé et le fait que ça a été revendiqué et comment ça a été revendiqué. Même petit détail, peut-être technique pour ceux qui suivent tout ça, quand l'État islamique veut revendiquer une grande opération en général, ils font sauter tous les anciens comptes Telegram miroirs qui reflètent les fils officiels. Parce qu'ils savent qu'une fois cette revendication faite, beaucoup de comptes vont être supprimés et de nouveaux comptes devraient prendre le relais. Donc ils feront sauter les anciens, ils créent les nouveaux. Et ça, c'est venu juste avant la revendication. Et c'était une indication, c'était le cas aussi avant Bruxelles, qu'ils allaient revendiquer quelque chose d'important. En l'occurrence, c'était Moscou.
Alors, Alban Mikozy, question de Claude. Je ne sais pas si vous saurez répondre, mais la population russe, sait-elle que l'État islamique a revendiqué l'attentat? La population russe achète-t-elle ou croit-elle à la version qu'a donnée cet après-midi Vladimir Poutine à la télévision, disant « derrière tout ça, c'est l'Ukraine ».
80-20. 80% de la population russe n'a que le canal officiel, c'est-à-dire la conférence de presse de Vladimir Poutine, c'est-à-dire les télévisions publiques et les médias officiels russes. Donc pour 80% des Russes, l'État islamique n'est même jamais prononcé. Parce que ce qui nous a marqué les uns et les autres, c'est que la revendication de l'État islamique n'existe pas aux yeux du Kremlin. Les photos que nous avons vues n'existent pas, elles ne sont nulle part. Et puis, il y a 20% de la population russe environ qui consulte Internet, qui a accès à un certain nombre d'informations de l'étranger, et pour cela apparaît cette revendication de l'État islamique. On va dire un mot sur Bryansk, parce que l'un des arguments de la partie russe, c'est de dire qu'ils allaient se rendre en Ukraine puisqu'on les a arrêtés à Bryansk. D'abord, rappelons qu'à Bryansk, on n'est pas encore en Ukraine. Il y a encore au moins 150 km. Et c'est aussi, avant tout, la route de la Biélorussie. Deuxièmement, je rappellerai que c'est une zone de guerre. Et qu'une fois qu'on arrive à 20 km de la frontière russe, là, on rentre en zone de guerre. Comment ces gens, pensaient-ils, passer le rideau russe pour rentrer en Ukraine? Il y a quand même...
Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est vrai que 11 personnes ont été arrêtées, dont les 4 terroristes, j'ajoute, présumés. Sait-on qui sont-ils, ces 4 terroristes? Est-on sûr que ce sont les auteurs de l'attentat qui a été commis hier soir? Et qu'est-ce qui les attend?
Alors, il y a une séquence
peut-être beaucoup
très
de questions,
russe.
Là,
mais... Je vais répondre à court. Il y a une séquence très russe qui vient de se produire. C'est que dès qu'ils ont été arrêtés, ils ont été filmés. Ils ont été interrogés en public. Un peu tabassés préalablement parce qu'on voit leur visage avec du sang, mais ils disent un certain nombre de choses. Par exemple, lundi, nous sommes arrivés le 4 mars en Russie.
On voit la photo
en provenance de Turquie. Vladimir Poutine ne veut pas déclencher la guerre contre la Turquie. Hein. Ça, c'est une information qui a disparu. Mais c'est ce que le terroriste dit. Il dit ensuite, nous sommes restés à Moscou. Évidemment, ils ne sont pas allés en Ukraine pendant 15 jours et revenus à Moscou. Non, ce n'est pas possible. Techniquement, c'est impossible. Donc, ils vivaient à Moscou pendant 15 jours. Donc, il y a des complicités. Donc, l'enquête va se poursuivre. Il y aura une enquête officieuse qui trouvera sans doute les vrais réseaux. Et puis, il y aura une communication officielle qui mettra en cause autant que ce sera possible l'Ukraine. Parce que pour l'instant, dans le champ de communication dans le narratif russe, la Russie est en guerre contre l'Occident collectif et l'Occident collectif, c'est pas l'État islamique.
Pascal Boniface, l'Ukraine n'a pas le moindre lien avec l'incident, on ne le cesse de le répéter à Kiev et on se dit inquiet. Est-ce qu'effectivement, comme Manon Loiseau semblait le suggérer, il s'inquiète d'une nouvelle offensive plus musclée de la part que préparerait Vladimir Poutine, qui désormais d'ailleurs dit qu'il est officiellement en guerre.
Oui, alors d'une part, les Russes ont intensifié leur campagne dans les jours qui viennent contre l'Ukraine. Et par ailleurs, effectivement, le mot « guerre » n'est plus tabou. Donc, ce qui signifie quand même que l'on peut effectivement encore plus attaquer. Alors, pourquoi ne pas accepter la revendication des États islamiques? Parce que ça serait une faille, ça serait une erreur. Et donc, ça serait un défaut. L'Ukraine, on sait que c'est un ennemi. Et donc, il faut appeler une punition encore plus grande, puisque c'est l'Ukraine qui serait coupable. Donc, c'est à la fois un intérêt pour son opinion publique, et puis peut-être ça va lui permettre, on sait qu'il pensait à une nouvelle mobilisation après les élections présidentielles, cet attentat peut être le motif pour faire face, pour assurer la sécurité des Russes, et donc envoyer encore plus de soldats en Ukraine, pour renforcer la pression sur l'Ukraine. Effectivement, les Ukrainiens peuvent s'inquiéter. Et ce lien entre l'État islamique et l'Ukraine est complètement farfelu, parce que l'Ukraine appartient au camp occidental, les Occidentaux ne sont pas en bons termes avec l'État islamique, c'est le moins que l'on puisse dire. Et s'il y avait le moindre possibilité, disons, admettons que l'Ukraine soit derrière cela, ça ne pourra pas rester inconnu très longtemps et ça serait la fin totale de l'aide occidentale à l'Ukraine. Donc l'Ukraine aurait beaucoup trop à perdre. Bon, elle peut se satisfaire de porter un coup à Moscou, mais pas au prix de l'arrêt total du monde occidental, être laissé seul face à Moscou. Donc cette accusation de l'Ukraine, elle est une sorte d'insinuation politique à destination de l'opinion publique. Dans le monde extérieur, les gens savent très bien que c'est l'État islamique qui l'a revendiqué, et jamais l'État islamique a revendiqué quelque chose qu'il n'avait pas commis, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Et on voit bien là une vérité parallèle, en fait, effectivement. Et ce qui serait intéressant, c'est de voir combien de temps les 80% resteront coupés des 20%. C'est-à-dire que quand même, les nouvelles circulent, pas que par la télé. Les gens ne s'informent pas que par les canaux, les discussions, etc. Et quand même, au bout d'un certain temps, les 20% qui savent vont avoir des contacts avec les 80% d'ignorants. Et donc, Poutine, je crois, pourra pas rester éternellement dans le déni total.
C'est vrai que Manon Loiseau, la ficelle quand même paraît un peu grosse. Dire ce sont les Ukrainiens qui sont derrière cet attentat qui ressemble en tout point à ce qui s'est passé au Bataclan.
Oui.
La ficelle est quand même très puis, difficile à avaler quand même. Pour les Russes sont
d'autant dans la mémoire russe
intoxiqués à ce point, intoxicables à ce point.
Moi, je pense aussi non, parce que la mémoire russe, elle a aussi la prise d'otage de Nordost de 2002.
C'était
un groupe tchétchène avec Marayev islamiste. Deux ans après la prise d'otage à Beslan, l'école qui a fait des centaines de morts parmi
encore
les enfants,
encore des islamistes.
De nombreuses attaques terroristes, notamment on appelait les veuves noires, les femmes tchétchènes qui se faisaient exploser dans le métro. Donc depuis 20 ans, la population russe a vécu avec ça. Alors après, il faut voir que cette nuit, par exemple, sur NTV, une des chaînes qui était à l'époque libre, qui ne l'est plus, ils ont fait un fake avec le chef du Conseil de la sécurité ukrainienne à qui il faisait dire c'est extrêmement joyeux ce qu'il se passe à Moscou, nous ferons tout pour que ça continue. Ce fake a été repris partout, sur les chaînes officielles, sur les chaînes Telegram officielles, et ils ont dû ensuite le démentir, parce qu'en fait ça a été prouvé que c'était un fake. Donc il y a eu un retour en arrière d'NTV qui a finalement enlevé ce fake, mais ils en sont là, ils en sont à créer une interview du chef du Conseil de la sécurité ukrainienne,
voilà.
Revendiquant en fait les
attentats. Se réjouissant.
Donc peut-être qu'effectivement les 80% petit à petit basculeront sur un 60-40. Mais c'est compliqué dans un contexte de propagande absolue, dans un moment où Vladimir Poutine vient de se faire réélire entre guillemets à 87% et où depuis deux ans une grande majorité de la population russe, hélas, accepte et rentre dans ce jeu de la propagande depuis le début de l'invasion de la guerre en Ukraine.
Il y a un détail intéressant quand même, c'est sur la photo diffusé par l'État islamique, on voit les habits de deux des terroristes qui sont les mêmes des habits des terroristes arrêtés. Donc même ce wording de dire c'est les Ukrainiens, l'État islamique n'a rien à voir avec ça, il est mis à mal par la diffusion de la photo par l'État islamique. Donc ça aussi, ça, je ne sais pas comment ça va...
Encore mais est-ce qu'elle circule cette photo de l'État islamique qui revendique l'attentat?
Oui,
elle circule quand même en Russie?
Bah, enfin, je pense, parce que les gens s'informent pas que sur... Les Russes s'informent beaucoup sur Telegram, vous me corrigerez peut-être.
Non.
Et ça circule beaucoup sur Telegram.
Ça reste 20% de la population.
Ça reste 20%, ouais.
Alors, donc, un acte terroriste barbare, une tuerie de masse, les mots de Vladimir Poutine pour qualifier l'attaque perpétrée hier soir dans la banlieue de Moscou. Une attaque revendiquée, on l'a dit, par l'État islamique, même si le président russe préfère, lui, pointer du doigt l'Ukraine. Alors, que sait-on précisément des assaillants? Le récit de ces dernières 24 heures, signé Laura Rado et Michel Bouilly.
Ce matin, de larges volutes de fumée se dégagent encore du Crocus City Hall. L'incendie dans la salle de concert de la banlieue de Moscou a été maîtrisé. Mais il faudra plusieurs jours aux secouristes pour dégager toutes les victimes ensevelies sous les décombres Le bilan de l'attaque d'hier soir, encore provisoire, s'élève à plus de 130 morts. Vladimir Poutine a pris la parole à la télévision russe à la mi-journée.
Il est clair que nous sommes face à un acte de terrorisme préparé de manière cynique. Un meurtre de masse, prémédité contre des innocents. Les criminels avaient prévu de tirer et de tuer de sang-froid des citoyens.
Peu avant 20h, hier, des hommes en uniforme, lourdement armés, ouvrent le feu dans la salle où un concert de rock doit démarrer.
Ils tirent avec une mitraillette. Ils tirent sur la foule.
Un homme se filme quand il voit les assaillants lancer des cocktails Molotov vers les gradins.
Ils ont mis le feu au bâtiment. Il y a le feu, ils vont nous faire brûler.
Des centaines de personnes prises au piège se réfugient sous les sièges. Scène de panique, à l'intérieur de la salle comme dans le hall d'entrée, où les tireurs abattent méthodiquement tous ceux qu'ils croisent. Plusieurs dizaines de spectateurs parviennent à sortir, alors que les flammes ravagent le bâtiment.
Au début, je n'ai pas compris ce qu'il se passait. Après, j'ai vu les terroristes entrer et tirer sur tout le monde. À la fin, ils ont lancé ces cocktails Molotov. Tout a pris feu. On nous a entraînés vers la sortie, mais en fait, c'était fermé. On a couru partout pour trouver une sortie. On a fini par aller au sous-sol et on a attendu les secours pour être évacués.
Dans la nuit, l'attaque est revendiquée par l'État islamique, déjà responsable de plusieurs attentats en Russie. La branche afghane du groupe terroriste. Les auteurs seraient originaires du Tadjikistan, une ancienne république soviétique. Moscou avait d'ailleurs été mise en garde par Washington le 7 mars dernier d'un risque d'attentat imminent.
Les images sont horribles. Elles sont vraiment très dures à regarder. Nos pensées vont aux victimes de cette terrible fusillade.
Du côté du Kremlin, aucune mention de l'État islamique. Les autorités russes affirme avoir arrêté 11 personnes, dont 4 assaillants directement impliqués, près de la frontière russo-ukrainienne. Elles se sont même empressées de publier ces vidéos d'interrogatoire. Ici, un suspect, pieds et poings liés, dit avoir été payé 500 000 roubles. Un autre est torturé, l'oreille arrachée. Pressentant les accusations, l'Ukraine dès hier soir a nié toute implication dans la fusillade.
Soyons clairs, l'Ukraine n'a absolument rien à voir avec ces événements. Nous faisons face à une guerre totale de l'armée russe et contre la Fédération de Russie. Quoi qu'il se passe, ce qui concerne l'Ukraine se décidera sur le champ de bataille.
Qu'importe ces dénégations, pour Vladimir Poutine, les conclusions de l'enquête sont presque déjà connues et ne désigne qu'un seul responsable.
Tous ceux qui ont tiré et tué ont été interpellés. Ils ont essayé de se cacher et de fuir en direction de l'Ukraine, où, selon nos données, une fenêtre avait été préparée pour qu'ils franchissent la frontière.
Devant la salle de concert, les hommages aux victimes se multiplient. Une journée de deuil national a été décrétée demain en Russie.
Question téléspectateur Alban Micosi, c'est Régis en Côte d'Or. N'est-il pas surprenant qu'un attentat puisse avoir lieu si près de la capitale russe qu'on imagine très sécurisée en ce moment? Ce Crocus City Hall, je crois que vous le connaissez, vous y êtes allé. Hein.
J'ai assisté à des concerts là-bas. En fait, c'est une salle qui se trouve, il y a l'UMCAD, c'est-à-dire le périphérique extérieur de la ville, et c'est vraiment juste au bord du MCAD, c'est direction de l'aéroport de Sheremetyevo, pour ceux qui connaissent un peu
on voit la carte à la gare.
Nord-ouest de Moscou. C'est une immense salle moderne qui a été inaugurée, je pense, dans les années 2010. Une salle qui fait un amphithéâtre qui fait 5-6 000 places. À côté, il y a un très grand centre commercial. Voilà le lieu. C'est le Moscou, c'est pas le Moscou de l'hypercentre, c'est le Moscou des familles. C'est le Moscou des gens ordinaires et qui vivent et assistent à des concerts. Il faut savoir que Moscou, c'est une ville très riche en spectacles. La Russie est un pays en guerre, mais Moscou, c'est la ville aux 365 théâtres.
Vous disiez tout à l'heure qu'ils étaient à Moscou depuis 15 jours. Ils sont donc totalement passés, ces terroristes, en dessous des radars, des services secrets et des... Et
ils affirment être entrés par la Turquie, par un vol de la Turquie, le 4 mars. Nous, ils ont commis leur acte le 22 mars. Entre le 4 mars et le 22 mars, ils ont habité quelque part à Moscou.
Visiblement, les Américains avaient prévenu... Enfin, les Américains disent qu'ils savaient qu'un attentat se préparait contre un lieu de grand rassemblement. Visiblement, donc, les services secrets américains sont mieux renseignés sur ce qui se passe à Moscou que les Russes eux-mêmes. C'est ce qu'il faut en
déduire. En tout cas, les services secrets américains disent avoir alerté les Russes. Il y a même une réponse de Vladimir Poutine, parce que la question lui avait été posée il y a quelques jours en disant « tout ça c'est de l'agitation occidentale ». Aujourd'hui, vous lisez dans certains réseaux sociaux le fait que si les Américains étaient au courant, c'est probablement qu'en fait, ils étaient derrière tout ça. On peut retourner tous les faits. Arguments. Pour l'instant, la vérité, c'est que il y a des questions qui se posent, que nous, on poserait dans une démocratie à un autre gouvernement si ça arrivait. C'est arrivé au Bataclan, il y a eu un certain nombre de questions. Ces questions-là, le gouvernement russe n'est pas encore prêt à les affronter.
Wassim Nasr, en regardant le reportage, vous avez réagi en disant « ils savent tirer ». Est-ce que ça vous a fait penser au Bataclan? Est-ce qu'on peut le comparer? Et deuxième question, quand même hier soir, on s'est demandé « mais pourquoi l'État islamique va-t-il ainsi frapper Moscou en ce moment ?»
Déjà, le mode opératoire, oui, ça fait penser au Bataclan, mais pas que. Ça fait aussi penser à l'attentat en Iran, qui a eu quelques mois. C'était aussi la même branche afghane de l'État islamique. Ça fait penser à l'attentat de Kandahar avant-hier, où ils ont envoyé des kamikazes tuer un rassemblement de fonctionnaires talibans. Donc eux, ils agissent, ils sont constants. On n'entend pas parler ici parce que ça ne nous touche pas directement. En ce qui concerne la Russie, ce n'est pas la première fois que l'État islamique s'attaque à la Russie. Il y a eu deux attentats revendiqués en 2016, trois en 2017, dont un à Saint-Pétersbourg, deux en 2018, un en 2019. Il y a deux semaines, il y a un attentat qui était empêché contre une synagogue par le FSB. Donc l'État islamique est constant dans son animosité vis-à-vis de la Russie. Il essaye de profiter de certaines brèches pour frapper. Cette animosité remonte dans le temps jusqu'en Syrie. Les batailles de Palmyre, c'était l'armée régulière russe contre l'État islamique dans l'Est syrien. Les batailles à Azov, aussi l'armée russe.
Parce que la Russie, en soutenant Bachar el-Assad, condamnait l'État, enfin frappait l'État islamique. Hein.
Pas que, il y a aussi le Sahel. Ouais. Le Sahel, où Wagner est présent et fait face à l'État islamique, à Al-Qaïda, mais aussi, et c'est très...
Les Russes, en nous chassant du Sahel, ils continuent de faire le boulot qu'on faisait à l'époque, à savoir de combattre les
terroristes. Je ne dirais pas que c'est le même boulot, parce que leur présence au Sahel favorise plutôt le recrutement chez les djihadistes à cause des exactions. Il y a beaucoup plus de djihadistes maintenant. Mais ce qui est inattendu, et ce que je voulais dire, c'est que aussi l'État islamique en veut à la Russie, parce que la Russie a aidé les talibans contre l'État islamique, alors que les Américains étaient encore en Afghanistan. Et ça, c'est le plus gros contentieux de cette branche
parce
avec
que
la Russie.
Ça peut paraître assez surprenant, mais talibans et État islamique se détestent...
Je vous ai dit, là, toutes les semaines, quasiment tous les jours, il y a un attentat commis par l'État islamique contre les talibans. C'est les talibans qui ont réussi à chasser l'État islamique Afghanistan de son fief territorial à Nangarhar. C'est là-bas aussi, rappelez-vous, Donald Trump avait lancé la mer des bombes. C'était contre l'État islamique aussi.
Donc l'État islamique, pour de multiples raisons, a fait cet attentat parce qu'il considère la Russie comme un ennemi. Quoi.
Voilà, et dans la dernière revendication officielle avec des références religieuses de l'État islamique, il a dit que la Russie croisée et ses alliés sachent que la vengeance n'est pas oubliée.
On a presque eu l'impression, Pascal Boniface, hier soir, en entendant les réactions des Européens, des Occidentaux, que ça aurait pu nous rapprocher le fait d'avoir que les Russes aient été frappés comme nous en 2015 au Bataclan. Emmanuel Macron a fait part de sa solidarité avec le peuple russe. Les Polonais ont dit « nous partageons le deuil des familles de victimes ». Au fond, on est pour l'État islamique, les Russes et les Occidentaux, on est dans le même camp. D'ailleurs, ils disent « on a ciblé un rassemblement de chrétiens ».
Oui, de toute façon, la division, le clivage, l'affrontement qu'il y a entre la Russie et le monde occidental à propos de l'Ukraine n'empêche pas que pour l'État islamique, on est tous dans le même sac et on est les ennemis de l'islam et ils peuvent aussi bien frapper au Bataclan que ici. Donc en fait, l'ennemi de mon ennemi n'est pas forcément mon ami.
Oui.
Et donc là, c'est vraiment tout à fait différent. Donc effectivement, il y a cette division pour l'État islamique. Tous ceux qui ne sont pas musulmans sont des ennemis alliés potentiels et il voit une grande alliance civilisationnelle. Et donc il frappe. Ils ont effectivement un contentieux particulier avec la Russie pour toutes les raisons que Wassim a évoquées. Mais ils ont aussi un contentieux contre nous. Ils ont un contentieux contre tous les pays occidentaux.
Contre l'Iran.
Contre l'Iran, effectivement. Donc c'est pas. Et souvent on dit, bon, finalement, enfin, on est étonné que les talibans et l'État islamique soient en guerre parce que pour nous, c'est deux groupes terroristes qui foulent toutes les libertés, etc. Vous avez un groupe qui est un groupe national sur l'Afghanistan, l'autre qui veut une couverture mondiale, et donc ils sont en concurrence directe. Donc effectivement, on voit bien qu'il y a un jeu, on est tous leurs ennemis, et eux-mêmes, ils s'affrontent entre talibans et État islamique, et peut-être d'ailleurs que ces attentats sont le fruit de la défaite territoriale qu'ils ont en Afghanistan. Ils ont besoin de montrer qu'ils ne sont pas... Ils ont perdu leur assise territoriale entre l'Irak et la Syrie. Ils sont nettement moins puissants qu'ils étaient en Afghanistan. Et donc, ils veulent montrer qu'ils peuvent néanmoins frapper très fort. Et ils visent aussi bien un pays autoritaire qu'une démocratie. Donc le fait que la Russie soit un pays autoritaire ne les met pas à l'abri de ce type d'attentat.
Parce que Wassim Nas, oui, alors c'est une branche afghane, hein, c'est État islamique El Khorasan. Hein,
c'est, la branche, c'est le nom historique de cette
c'est la
région.
La branche afghane donc, de l'État islamique.
Voilà, hein. Afghanistan, Pakistan, etc. Et ce qui est particulier par rapport à cette branche qui a été défaite donc, territorialement, c'est qu'ils ont une capacité de recrutement en ville, donc dans les villes afghanes, mais aussi dans plusieurs pays de l'Asie centrale, ancienne république soviétique.
On a parlé du Tadjikistan.
Voilà, il n'y a pas que, il y a le Tadjikistan. D'ailleurs, ça faisait partie aussi des recrues les plus importantes de l'État islamique pendant sa période territoriale au Levant. Les plus grands commandants militaires venaient de là, hein, Tchétchène et Asie centrale. Mais aussi un point important, c'est que si la communauté internationale a accepté les talibans, tant bien que mal, c'était justement parce que ça faisait partie du contrat qu'ils retiennent l'État islamique sous cloche dans cette zone stratégique où les Russes ont des intérêts, c'est pour ça qu'ils aident les talibans, les Chinois ont des intérêts, c'est pour ça qu'ils aident les talibans, pour que l'État islamique n'aille pas recruter chez les Ouïghours. Donc on est dans une situation très explosive et un gros potentiel de cette branche de l'État islamique sur zone.
Manon Loiseau, face à cet attentat, quelle peut être la réaction du peuple russe? Est-ce qu'ils ne peuvent pas se dire, comme on l'évoquait tout à l'heure, quand même, notre chef qu'on vient de réélire, il n'a pas vu la menace terroriste, nos services secrets ont été incapables de nous défendre, il paraît que hier soir, la police a mis du temps à arriver sur les lieux, il ne peut pas y avoir quand même un procès en incompétence?
Pas si on lui sert la rhétorique du Kremlin qui est que c'est l'Ukraine qui est derrière ça. Et donc, ça vient conforter cette guerre maintenant qui est nommée comme une guerre contre l'Ukraine par le porte-parole du Kremlin. Donc, non, il y a peu de chances en fait, que ça se retourne contre le président qui vient d'être élu.
Il peut même y avoir un aspect tous derrière le chef dans les temps durs.
Complètement. En 1999, les attentats de Moscou qui avaient fait plus de 300 morts au cœur de la capitale et qui ont justifié la deuxième guerre de Tchétchénie et qui ont fait venir Vladimir Poutine au pouvoir, ont permis, c'était, voilà, on va aller, il disait à l'époque que Vladimir Poutine les butait jusqu'à dans la cuvette des chiottes, ouais, avec ce vocable très élégant, et c'était un prétexte pour raser Grozny. Donc là, en fait, ce qui va être intéressant, c'est de voir combien de temps le Kremlin va pouvoir tenir cette rhétorique de les Ukrainiens sont derrière ça, alors que l'ensemble du monde est dans une solidarité. Enfin, beaucoup de chefs de gouvernement sont dans une solidarité parce qu'ils ont vécu comme nous le Bataclan, donc contre les attentats islamistes. Ça va être intéressant de voir est-ce qu'il va changer à un moment donné le narratif, parce que jusqu'à ce qu'il y ait la guerre en Ukraine, il faut bien voir que les attentats en Russie c'était le fait d'islamistes et que justement il y avait cette solidarité contre Daesh ou contre des terroristes tchétchènes.
Oui, parce qu'elle
alors, dès qu'il y a un attentat, en Russie comme ailleurs, la population se groupe autour de ses dirigeants. Oui. Parce que c'est la citadelle assiégée. C'est ensuite qu'on peut demander des comptes, mais on en demande moins en Russie qu'ailleurs. Et donc, il y a assez peu de chances que Poutine soit mis en cause parce qu'en disant il n'a pas pris en compte les avertissements, etc. Mais ça, c'est un réflexe partout, même s'il y a une faille dans les services et que quelque part, mais on ne peut pas empêcher tous les attentats. Mais néanmoins, le premier réflexe, c'est pas de mettre en cause le gouvernement, même s'il a commis des erreurs dans la gestion de la sécurité, c'est de se dire nous sommes attaqués, il faut faire bloc parce qu'il y a une attaque. Et ça, On a eu ça au 11 septembre. George Bush est devenu président réellement après le 11 septembre. Il était un peu méprisé par les Américains. Au Bataclan, on s'est tous regroupés. C'est partout pareil. À Londres aussi, après l'attentat en 2005.
Le peuple fait bloc.
Oui, parce que l'émotion est telle. Et puis on ne peut pas non plus montrer un visage de division quand on est atteint de façon aussi cruelle.
Manon Loiseau, vous évoquiez l'instrumentalisation par Vladimir Poutine de cet attentat. Avant la revendication par Daesh, les renseignements militaires ukrainiens sont même allés jusqu'à dire « Cet attentat terroriste de Moscou est une provocation planifiée et délibérée des services spéciaux russes sur ordre de Poutine ». Est-ce qu'on aurait sérieusement pu imaginer que Poutine aille jusqu'à organiser des attentats, les imputant à des islamistes pour ensuite mobiliser le peuple et faire des opérations coup de poing?
Alors justement, je reviens encore à 99. En fait, les attentats de Moscou, il y a eu un troisième attentat qui était prévu dans une ville à Riazan, à quelques centaines de kilomètres de Moscou, qui a échoué parce que des habitants ont vu des soldats porter des sacs où c'était marqué sucre, et en fait c'était des explosifs, et en fait ils ont été arrêtés par la police. Et là, à ce moment-là, les Russes disaient « Mais oui, bien sûr, c'est le FSB qui a organisé en fait les attentats à Moscou pour envahir la Tchétchénie, pour faire élire Poutine. » Donc, et c'était dit, en fait, même les gens de la rue
pensaient ça. Poutine est capable d'organiser un attentat contre son propre peuple pour apparaître en sauveur derrière.
Il n'y a bien sûr jamais eu de preuve de ça, mais moi je me souviens d'émissions justement à l'époque où NTV était libre, où il y avait les gens de Riazan qui étaient là, le chef du FSB, et qui se faisait agresser par le peuple russe, qui disait « Vous avez créé ces attentats pour faire cette guerre, pour créer un état un climat de peur, et ça a fait venir Vladimir Poutine au pouvoir. » Donc ça, c'est effectivement, quand l'Ukraine dit ça aujourd'hui, elle a en mémoire ça, parce que bien sûr qu'on ne prouvera jamais, mais bon, il y avait ce film Wag the Dog où on crée une guerre pour venir au pouvoir. Voilà, donc c'est resté, même chez les Russes, quelque chose qui est pas si impossible que ça, que les services secrets soient derrière un attentat terroriste. Celui-là paraît plus complexe, mais comme ils disent que l'ennemi c'est l'Ukraine, que c'est l'Ukraine qui a organisé ça, les Ukrainiens leur rétorquent.
Il faut garder en tête aussi ce qui est du faux drapeau, ça existe, oui. Mais en général, c'est des bombes, des voitures piégées, des incendies. On n'envoie pas une équipe de 4 personnes qui peuvent être arrêtées, questionnées. Et derrière.
Il a dit qu'il y en avait un qui disait « J'ai été payé 500 000 roubles. »
5 000 euros.
Ça fait 5 000 euros. Ça paraît bien peu. Ça paraît crédible ou pas?
Franchement, je ne sais pas. Il était contraint. Il avait perdu son oreille déjà, je pense. Donc,
alors dit... justement, Jean-Marc dans les sols. Le Kremlin pourrait-il faire dire n'importe quoi aux terroristes arrêtés pour intensifier ses attaques contre l'Ukraine? Est-ce qu'il pourrait être cuisiné, là? Dit que c'est envoyé par Zelensky.
De toute façon, il parlait clairement sous la contrainte. Clairement, l'homme n'était plus en état de verser un témoignage libre, on va dire ça comme ça. Maintenant, moi, je resterai encore très, très prudent. Il y a un fait. Il y a eu un attentat hier. Il y a un deuxième fait à peu près certain, c'est que l'État islamique l'a revendiqué et que cette revendication est sérieuse. Pour tout le reste, on est pour l'instant dans le domaine du commentaire. Commentaire côté ukrainien où évidemment on va
pointer du doigt les Russes. Mais la réaction de Poutine a quand même beaucoup surpris à la télévision. Hein.
Mais parce que Vladimir Poutine ne peut pas dire... Je vais un tout petit peu plus loin que tout à l'heure. Vladimir Poutine ne peut pas dire c'est l'État islamique. Pourquoi? Parce que ça fait des mois qu'il sert aux Russes le narratif de la Russie va bien avec tout le monde, sauf l'Occident collectif qui cherche à nous nuire. L'État islamique, c'est un mot qu'il n'a pas prononcé peut-être depuis 15 ans. Il se trouve là, avec tout d'un coup, les Russes découvrent « Ah bon, on a un nouvel ennemi, mais qui est-ce? Pourquoi on ne s'en est pas occupé ?» Il y a plein de questions qui se posent s'il ouvre cette boîte de Pandore. Pour l'instant, il ne l'ouvrira pas. En revanche, je pense que des têtes vont tomber au FSB, parce qu'il y a quand même des questions très lourdes qui se posent. Comment les services de sécurité de l'une des villes les mieux gardées au monde peuvent mettre une heure à intervenir dans une des plus grandes salles de spectacle de la ville, une heure pour se mobiliser sur place? Comment les médecins peuvent-ils pénétrer seulement 3 heures après? Et les terroristes étaient partis. Vous vous rendez compte quand même que les terroristes étaient partis?
Et ça, c'était l'info donnée dans le communiqué de l'État islamique, comme quoi ils étaient partis.
Oui, alors d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont dit. Ouais. Ils ont dit qu'ils ont pu partir, regagner leur base en toute sécurité. Si ça se trouve, les vrais terroristes, non?
Non, c'est les mêmes.
C'est les mêmes.
Ils se sont extripés, voilà, c'est tout.
Ils sont partis et ils se sont fait rattraper à Bryansk.
Après, il y en a qui se disent, oui, comment ça se fait? En général, les djihadistes de l'État islamique meurent armes à la main. Ouais. Bon, c'est pas vrai. Le 13 novembre, on a eu la tournée des bars avant l'attaque du Bataclan et le stade. Abaoud, on l'a rattrapé 2 jours plus tard. Les frères Kouachi ont tapé Charlie Hebdo, c'était Al-Qaïda, d'accord. Mais on les a rattrapés beaucoup plus loin. Donc c'est pas un sens exact non plus. Peut-être qu'ils avaient d'autres plans par ailleurs.
Alors, quelle est réellement la capacité d'action de l'État islamique? Si le califat n'existe plus, les attentats n'ont jamais cessé, et ce, dans le monde entier. De la Syrie à la France, en passant par le Mali ou la Belgique, régulièrement, des attaques sont revendiquées par le groupe terroriste. Juliette Perrault et Ilana Azinko.
C'était il y a 2 ans. Une tentative désespérée de l'État islamique pour récupérer ses combattants détenus dans l'une des plus grandes prisons de Syrie. 10 jours de combats acharnés entre les forces kurdes et les djihadistes, 500 morts. Les forces démocratiques syriennes mettent en garde le monde entier.
Nous demandons à la communauté internationale de s'impliquer davantage, car il ne s'agit pas seulement d'un problème local qui concerne le nord-est de la Syrie, mais plutôt d'un problème international. Les terroristes internationaux les plus dangereux se trouvent dans cette prison et l'État islamique compte continuellement sur eux pour raviver son autorité et son prétendu État.
Reprendre du terrain, après avoir perdu ces dernières années le contrôle de vastes territoires en Syrie et en Irak. Aujourd'hui, l'État islamique se bat pour survivre, mais continue de faire parler de lui à travers des attaques ponctuelles menées un peu partout dans le monde. Pour cela, l'organisation s'appuie sur des groupes terroristes déjà existants qui lui prêtent allégeance. En Afghanistan, par exemple, l'État islamique au Khorasan revendique régulièrement des attentats terroristes. Ici, dans un hôtel à Kaboul fin 2022, là, un attentat suicide devant le ministère des Affaires étrangères au début de l'année dernière. À des milliers de kilomètres de là, sur un autre continent, c'est une autre milice islamiste qui sévit. En Ouganda, les forces démocratiques alliées ont mené en juin dernier un assaut sanglant contre ce lycée. 39 élèves ont été tués. Les survivants racontent l'horreur.
Ils ont tiré sur les fenêtres et la porte. L'un de nous a reçu une balle et s'est mis à crier « Au secours, venez m'aider !» Comme ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte, ils ont continué à tirer sur les fenêtres. Puis ils ont incendié notre dortoir, alors que nous étions dedans. Ils se sont ensuite rendus vers le dortoir des filles.
L'Afrique, un continent où Daesh est à l'offensive. Sur ces images aériennes, une attaque massive de djihadistes contre un détachement de l'armée l'automne dernier, dans le nord du Burkina Faso. Face à une menace qui ne faiblit pas, le pays a conclu il y a quelques semaines un accord avec le Mali et le Niger pour créer une force armée commune anti-djihadiste.
Nous sommes convaincus qu'avec les efforts conjugués de nos 3 pays, nous parviendrons à créer les conditions d'une sécurité partagée.
En Europe, l'État islamique sévit aussi. Le 13 octobre dernier, Dominique Bernard, professeur de français à Arras, est poignardé à mort par un ancien élève de l'établissement. Les enquêteurs retrouvent rapidement un message audio et une vidéo enregistrée par l'assaillant avant son passage à l'acte.
Lors de cette vidéo, il prêtait allégeance à l'État islamique. Il apportait son soutien aux djihadistes agissant dans différentes zones, notamment en Afrique, en Irak, en Syrie, au Sinaï, au Yémen, au Khorasan ou encore au Pakistan.
Un acte isolé, suivi 3 jours plus tard d'un autre attentat en Belgique cette fois. 2 ressortissants suédois sont tués par arme à feu. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, l'assaillant se dit inspiré par l'État islamique. Début décembre, une nouvelle attaque à Paris fait 1 mort sur le pont de Bir Hakeim. Là encore, l'assaillant avait fait allégeance à l'EI dans une vidéo. Un terrorisme qui touche régulièrement l'Europe depuis 20 années et les attentats de 2004 à Madrid.
Ce 11 mars 2004, il y a 20 ans jour pour jour, le terrorisme islamiste a frappé l'Europe massivement pour la première fois. Cette date, elle reste comme une cassure pour notre continent. Nous avons compris que nous aussi, nous étions des cibles. Nous l'avons compris durement, si durement.
Une prise de conscience et depuis un niveau de vigilance particulièrement élevé, notamment lors de grands événements. En France, le risque terroriste est déjà identifié comme la principale menace des Jeux Olympiques de cet été.
Wassim Nas, on pensait, c'est vrai que l'État islamique était quand même un petit peu sorti des radars, même s'il frappe régulièrement. On pensait l'avoir vaincu territorialement, mais il continue d'exister. Mais alors comment? Il y a un chef, il y a un territoire, il y a une capitale
Il n'y a pas de capitale. En fait, effectivement, il a été vaincu territorialement, donc en Syrie, en Irak. Et là, d'ailleurs, je pense que c'est l'anniversaire de la défaite du califat, c'est aujourd'hui ou demain. Mais ce que l'État islamique a fait. Donc, l'État islamique a été créé en Irak en 2006. Il s'est exporté en Syrie à la faveur de la guerre, 2011-2012. Puis dès 2014, il s'est exporté en Libye, au Sinaï, au Sahel en 2015, au Nigeria en 2015, Somalie, Yémen. Et 2015, c'était aussi pour l'Afghanistan. Donc ils ont réussi à avoir des allégeances de groupes préexistants. Par exemple, l'Afghanistan, c'est un mécontent des talibans, un chef militaire des talibans, qui n'a pas trouvé son compte chez les talibans, qui les trouvait trop mou peut-être, avec un peu de problèmes familiaux entre clans. Il a dit, je veux voir allégeance à l'État islamique. Et c'est comme ça que l'État islamique s'est implanté en Afghanistan. Et sur tous les théâtres de guerre, c'est pareil. Au Sahel, dont on a beaucoup parlé ici, c'est un ancien chef d'Al-Qaïda qui a quitté Al-Qaïda, qui a voué allégeance à l'État islamique.
Mais il y a un chef qui donne des directives, qui centralise, qui coordonne.
Oui, il y a un chef, il y a un calife. Donc depuis la déclaration du califat en 2014, il y en a eu 4 qui ont été tués. Toujours 3 fois par les Américains, 1 fois par un ancien groupe rebelle dans le sud de la Syrie. Et là, celui actuellement qui est calife, on n'a pas son CV, j'ai envie de dire, et moi je pense aussi qu'il pourrait ne pas être ni en Syrie ni en Irak, parce que la tension, il peut être en Afrique, il peut être en Afghanistan, voilà, les théâtres où l'État islamique réussit à s'implanter, à administrer des zones, comme le lac Tchad par exemple, ou la Somalie, ce n'est pas du tout exclu. Donc partant d'un petit groupe insurrectionnel dans le désert irakien, c'est devenu une marque mondiale, donc en compétition avec Al-Qaïda.
Mais on ne sait pas pourquoi, contre l'ennemi
éternel, ils le disent dans leur communiqué, contre les croisés, contre les apostats. Voilà, c'est une guerre ouverte. C'est une guerre ouverte, et à chaque fois qu'il y a une brèche, on se demandait tout à l'heure, pourquoi maintenant? Est-ce que parce que Poutine a été élu? Est-ce que face à la guerre d'Ukraine? Pas du tout. Parce qu'il y a un effort constant de frapper, et dès qu'il y a une brèche qui s'ouvre, ils en profitent. Et dès qu'il y a un trouble géopolitique, guerre en Ukraine, guerre à Gaza, conflit en Irak entre les Kurdes et le gouvernement irakien, ben ils en profitent. Là, au début, on a entendu parler du sujet des camps où sont détenus des ressortissants français, djihadistes et autres. Ces camps-là sont ouverts à toutes les inconnues. Parce que du moment où les Kurdes perdent le pouvoir là-bas, Assad revient, les Turcs rentrent, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ben, un casse de prison comme celui de Hasaka en janvier 2022 peut arriver. Ça n'a pas été dit dans le sujet. Janvier 2022, ils ont libéré plus de 300 djihadistes quand même de cette prison.
Pascal Boniface, Jean-Marc dans l'Essonne. Au moins, nous avons un ennemi commun avec la Russie, Daesh. Cela peut-il être une base pour négocier ?
Non, non. Il y a un sujet qui est la guerre en Ukraine et il y a un sujet qui est la guerre contre le terrorisme. Peut-être qu'un jour, il faudra négocier avec la Russie sur l'Ukraine, mais pas parce qu'il y a eu des attentats. Par contre, on peut échanger des informations pour lutter.
C'est le cas.
Enfin, oui, ils auraient mieux fait de le faire plus discrètement parce que, en faisant publiquement, ils ont un peu empêché d'agir aussi. Mais en tous les cas, il y a des contacts entre les services, etc. Il faut intensifier ces rapports parce que nous avons effectivement un ennemi commun.
Donc il y a des contacts entre les services au sujet de la lutte contre le terrorisme, y compris avec les Russes, donc.
Bah, bien sûr, parce que en Syrie, on a des ennemis communs, on a quand même coopéré. La coalition anti-Daesh était quand même très, très global. Mais par contre, le sujet Ukraine, là, on est sur des fronts opposés. C'est pas parce que nous sommes opposés, nous sommes dans le même sac dans un coin, que nous serons dans le même sac dans l'autre. Peut-être qu'un jour, il y aura des négociations, mais quand on aura décidé, parce que nous l'aurons décidé, pour des raisons qui tiennent à nos intérêts et notre vision, mais pas parce que les Russes ont été frappés. Par contre, effectivement, il faut disjoindre les deux sujets. Parce que ce n'est pas la même attitude, mais en fait, les contacts entre les services sont constants pour éviter des affrontements directs, déjà. Il ne faudrait pas qu'en Syrie, il y ait un avion américain qui frotte un avion russe, etc. Il y a des contacts constamment entre les services secrets, et la coopération sécuritaire et la coopération de renseignement, elle est aussi constante parce que, on l'a bien vu encore une fois, nous sommes menacés par le même ennemi.
Mmh. Et oui, et d'ailleurs, à 2 mois et demi des JO, la menace terroriste islamique se rappelle à notre bon souvenir. Il n'y a pas que les cyberattaques russes pour la cérémonie d'ouverture.
Wassim disait quelque chose de très important. Le dernier gros attentat, il a 48 heures. C'était à Kandahar, en Afghanistan. Mmh. L'État islamique, je regardais, l'an dernier, on a peu parlé de l'État islamique, objectivement, en 2023, on en a peu parlé. 505 attentats dans le monde.
Plus d'un par jour.
Donc, l'État islamique, il a un agenda qui est totalement étranger à l'élection.
En fait, il frappe beaucoup en Afghanistan, au Pakistan, dans des pays.
Il frappe là où il y a des ouvertures. Le FSB est tellement occupé actuellement à rechercher les Ukrainiens qui pourraient pénétrer la société russe, tellement occupé à chercher les déstabilisations occidentales qu'une fenêtre s'est ouverte. Pendant cette fenêtre, l'État islamique a frappé.
Wassim Nas, question de Bernard dans le Tarn. Comment ces terroristes ont-ils pu entrer avec des armes dans cette salle? Alors, ils avaient d'ailleurs des kalachnikovs qu'on trouve facilement en Russie.
Oui, franchement, ça c'est une facilité qu'il n'y a pas par ailleurs dans les pays occidentaux. C'est qu'en Russie, les armes circulent, c'est ouvert sur l'Asie centrale, c'est facile à trouver. Et donc voilà, il y a une facilité. Ils ne sont pas rentrés en Russie avec les armes, ils se sont armés sur place. Et même, c'est le mode opératoire, en fait. Même les terroristes du 13 novembre, ils sont venus sans leurs armes avec les réfugiés, ils se sont armés et fabriqués leurs explosifs ici, en Belgique. Donc voilà, c'est pas du tout exceptionnel de voir qu'ils ont des armes individuelles aujourd'hui, en 2024, quoi.
Alors, les autorités russes se sont donc empressées de désigner l'Ukraine comme potentiellement responsable, malgré la revendication de Daesh. Des accusations alors même que la semaine a été particulièrement difficile sur le terrain, à Kharkiv, à Zaporijja ou à Kiev, la Russie a multiplié les frappes et pour la première fois depuis le début du conflit, le Kremlin reconnaît être en état de guerre. Sujet de Nicolas Bidart et Benoît Thébault.
Attaque de drones explosifs et missiles russes dans le ciel noir de Kiev. Réplique de la défense antiaérienne ukrainienne. Quelques heures plus tard, à 500 km de là, le plus grand barrage d'Ukraine, frappé à 8 reprises par la Russie. La centrale hydroélectrique qui fournit l'électricité à la centrale nucléaire de Zaporijja prend feu. D'autres infrastructures énergétiques sont touchées, comme ici à Kharkiv, deuxième ville du pays, particulièrement visée cette semaine.
Il s'agit d'un bâtiment industriel. Il n'y a pas d'installation militaire ici, ni de production militaire. Il s'agit d'une installation civile dans le secteur de l'énergie.
Dans tout le pays, au moins 5 morts et une trentaine de blessés selon Kiev. En une semaine, 150 drones et missiles lancés depuis la Russie. L'une des offensives les plus importantes ces derniers mois, stratégie revendiquée par Moscou.
Du 16 au 22 mars de cette année, en réponse au bombardement de notre territoire et aux tentatives de frapper des villes frontalières russes, les forces armées ont effectué 49 frappes de représailles avec des armes de précision aéroportées, à longue portée, y compris des missiles hypersoniques Kinjal, des systèmes de missiles et des véhicules aériens sans pilote.
Des représailles aux récentes opérations sur le sol russe. Car à défaut d'avancer sur la ligne de front quasi figée depuis l'été 2023, l'Ukraine tente d'enrayer la machine russe. Depuis un mois, plusieurs dépôts pétroliers et raffineries russes ont été visés par des drones et incendiés. À la frontière, la région russe de Belgorod est touchée par des frappes et des tirs de drones, comme le rapporte le gouverneur local.
Malheureusement, ce n'est pas une bonne matinée pour nous. Nous avons encore été bombardés. À notre grand regret, une personne a été tuée. Il y a des blessés. 3 établissements de santé et des bâtiments résidentiels ont été endommagés. Je donnerai tout à l'heure des informations plus précises sur les bombardements de ce matin.
Face à la recrudescence des frappes ukrainiennes, les autorités locales annoncent vouloir évacuer 9000 enfants de la région et diffusent cette vidéo. Et comme pour préparer les esprits à une vague de mobilisation massive, le Kremlin se déclare pour la première fois en guerre.
Nous nous trouvons en état de guerre. Oui, cela a commencé comme une opération militaire spéciale, mais dès que toute cette bande s'est formée, quand l'Occident collectif a participé à tout cela aux côtés de l'Ukraine, pour nous c'est devenu une guerre.
Ce glissement sémantique annonce-t-il encore un durcissement des combats? Quelques heures plus tard en tout cas, Volodymyr Zelensky accuse l'Occident de ne pas l'aider suffisamment.
La terreur russe n'est possible aujourd'hui que parce que nous ne disposons pas suffisamment de systèmes de défense aérienne modernes, ce qui honnêtement nécessite une volonté politique suffisante pour les fournir. Tous les partenaires savent ce qui est nécessaire et qui peut prendre les décisions qui sauvent des vies.
Une demande à laquelle la Maison-Blanche aimerait bien pouvoir répondre. Mais l'aide américaine de 61 milliards de dollars est toujours bloquée au Congrès depuis maintenant 5 mois.
Question téléspectateur Alban Mikosi, ne pensez-vous pas que même s'il n'y avait pas eu d'attentat, Poutine aurait intensifié les bombardements en Ukraine?
Mais les intensifie de fait actuellement. Le rapport des feux est favorable à la Russie actuellement. Les experts militaires estiment que les munitions, c'est 1 pour 12 à 1 pour 20. C'est-à-dire que là où
combien
les Ukrainiens tirent une fois,
avec ce rapport,
et ben c'est tout le problème. C'est que une ligne de front, ça craque d'un coup. On l'a vu dans toute l'histoire des batailles, des grandes batailles, des grandes guerres. Une ligne de front, ça tient jusqu'au moment où ça craque. Personne n'est capable de dire aujourd'hui combien de temps la ligne de front ukrainienne peut tenir. Et combien de kilomètres les Russes peuvent avancer. Personne ne peut le dire. Donc les Russes sont effectivement en train d'intensifier leurs frappes parce qu'en face, ils voient bien que les Ukrainiens manquent de munitions.
Pascal Boniface, quand on a entendu Vladimir Poutine cet après-midi pointer du doigt l'Ukraine et dire les auteurs seront punis, est-ce qu'il prépare les esprits à une nouvelle mobilisation, plus de munitions, peut-être plus d'hommes pour porter le coup fatal?
L'enjeu, c'est plus d'hommes, parce que les munitions, il les a, elles viennent de Corée du Nord, elles viennent de l'industrie russe qui s'est mise en état de guerre, qui produit beaucoup plus que l'Occident. En plus, effectivement, ils ont des capacités de production. Nous, on commence à s'y mettre, mais il y a du retard à rattraper, et on ne pourra... Et puis, il y a quand même une absence américaine. C'était très bien revanche, ça fait 5 mois quand même. 5 mois qu'il y a des crédits qui sont bloqués pour des questions de querelles internes aux États-Unis. C'est pas du tout une question d'appréciation de la menace ou c'est pas une question stratégique. C'est vraiment les amis, les sénateurs républicains partisans de Trump qui veulent empêcher Biden de faire cela. Et puis eux, ils pensent que l'argent doit aller pour faire une frontière avec le Mexique et pas pour aller en Ukraine. Donc ça bloque. Ce qui manque pour l'instant encore, il a déjà un avantage en termes d'hommes, parce qu'il y a plus de militaires russes que de militaires ukrainiens. Et on pensait déjà qu'il attendait l'élection présidentielle pour ne pas trop effrayer les Russes, qui ont, quand même n'ont pas tous envie d'être envoyés au casse-pipe. Et que maintenant que c'est passé, eh ben, il peut dire mobilisation. Et là, non seulement il n'a plus d'élection en vue, même si elles sont truquées, il fallait quand même qu'il fasse un bon score. Et là, il y a effectivement cet attentat qui peut justifier une mobilisation, puisque c'est lié à la situation en Ukraine. Donc, il faudra voir ce qui se passe dans les jours qui viennent, mais ce n'est pas certain que c'est comme cela que ça se passe, mais ça pourrait être pour lui l'occasion de faire quelque chose auquel il pensait déjà et qu'il avait entre les mains depuis longtemps.
Manon Loiseau, comment cette mobilisation, si elle devait être, par exemple, générale, serait-elle accueillie en Russie? Quel est l'état d'esprit des Russes par rapport à maintenant ce qui est appelé une guerre au sommet de l'État? Nous sommes en guerre contre l'Ukraine.
Alors la première vague, il y a beaucoup de Russes, justement d'hommes russes qui sont partis en Géorgie, un peu partout, en Arménie pour ne pas être mobilisés. Non, il faut voir qu'en fait dans les derniers communiqués, c'était une mobilisation de 300 000 hommes des nouveaux territoires, des nouveaux citoyens russes, à savoir les Ukrainiens.
C'est-à-dire les territoires conquis.
Les territoires conquis.
Donc ça va être un peu les malgré nous, quoi.
On enverrait des Ukrainiens se battre contre d'autres Ukrainiens, des Ukrainiens
du Mariupol,
du Donbass, voilà. Donc voilà, parce que de toute façon, ça va être très très mal reçu dans la population de remobiliser. C'était intéressant et assez inquiétant aussi, c'est que le discours de Vladimir Poutine suite à son élection triomphale, il a parlé de créer une zone tampon, une buffer zone, dans la région de Kharkiv. Moi, je viens de passer un an et demi avec Xenia Bolshakova à filmer dans la région de Kharkiv qui avait été occupée et libérée. Il envisage, donc s'il dit ça, ça veut dire qu'il envisage de reprendre toute cette zone qui est Kharkiv, Izium, etc. Donc, il y a une préparation quand même des esprits à reprendre en Russie, à reprendre une partie de ces régions ukrainiennes russophones et à mobiliser donc des Ukrainiens qui iraient se battre contre d'autres Ukrainiens.
Alban Mikozy, est-ce qu'on peut parler d'une montée en intensité? On a vu les Russes frapper un barrage à Zaporijja, un barrage hydroélectrique, et en même temps, on voit des Ukrainiens qui n'hésitent plus à frapper en profondeur, qui ciblent des raffineries de pétrole.
Alors, c'est deux choses différentes. Les Ukrainiens ont peu de matériel, mais ils ont du matériel performant qui permet d'aller plus loin qu'autrefois. Voilà aussi pourquoi les Américains ont mis un warning sur les raffineries de pétrole russes, parce que les Ukrainiens sont en mesure de les toucher bien au-delà de la frontière.
Et donc, oui, selon Financial Times, les Américains auraient dit aux Ukrainiens, faites attention, ça fait monter le cours du pétrole, et les automobilistes américains vont être mécontents.
Manon Loiseau a parfaitement raison quand elle parle de zone tampon. Il y a deux warnings qui doivent s'allumer pour nous. Le premier, c'est la zone tampon. Les Russes en parlent, c'est-à-dire concrètement une zone de 70 km par rapport à la frontière russe qu'ils veulent reconquérir sur toute la largeur de la frontière de manière à éviter les bombardements comme l'opération à Belgorod qui a été très mal vécue en interne en Russie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est évidemment Odessa. Très clairement, dans l'inconscient russe, il y a l'idée d'aller jusqu'à Odessa, d'ailleurs jusqu'à la frontière roumaine en réalité, parce que profondément, ils croient que c'est la Nova Russie, c'est que c'est chez eux, pour parler clairement. Deuxièmement, il y a un intérêt économique évidemment majeur, parce que si l'Ukraine perd Odessa, elle perd son dernier port, et concrètement, l'Ukraine sera à genoux économiquement.
Et là, Pascal Boniface, quelle sera la réaction des Occidentaux? On rappelle cette phrase rapportée par Le Monde et démentie d'Emmanuel Macron qui aurait dit « De toute façon, dans l'année qui vient, il faudra que j'envoie des mecs à Odessa ».
Alors ça, c'est tout le débat avec des avis très différents. Certains pensent qu'il faut envoyer les soldats parce qu'il y a un déficit démographique ukrainien et que seul l'envoi de soldats pourrait compenser cela. Sauf que c'est la guerre directe avec Moscou. Et que pendant toute la guerre froide, on a évité qu'il y ait un affrontement direct entre soldats occidentaux et soldats du pacte de Varsovie. Bon, mais certains disent, oui, il faut y aller, tant que... Bon, moi, personnellement, je trouve qu'il vaut mieux éviter cela parce qu'on rentre là dans quelque chose, une boîte de Pandore très, très dangereuse. Par contre, accélérer l'envoi de munitions, d'obus, peut-être les avions, etc. Je pense qu'il faut tout faire pour aider matériellement, en termes d'armes, l'Ukraine pour résister, pour tenir, parce qu'effectivement, si Odessa ou Kiev, enfin, je veux dire, il faut tenir ce front-là, et c'est notre intérêt. On le fait pas pour des valeurs, on le fait parce que c'est notre intérêt. Faut pas se mentir. C'est notre intérêt à ce que Kiev ne tombe pas, à ce que Odessa ne tombe pas. Par contre, il y a un débat. Moi, je suis je serais très réticent à envoyer des soldats parce que là, on rentrait dans une phase totalement inconnue avec des répercussions quand même qui nous dépassent.
Et d'ailleurs, pour aller dans votre sens, les trois quarts ou les deux tiers des Français sont totalement opposés. Les trois quarts.
Et le président américain, le chancelier allemand.
Des soldats en Ukraine. Manon Loiseau, et les Russes eux-mêmes, est-ce qu'ils sont effrayés, j'espère que oui, à l'idée que tout cela ne se termine par une guerre directe entre la Russie et les soldats de l'OTAN?
Alors pareil, je crois qu'ils sont complètement conditionnés par la propagande qui est de dire, en fait, depuis assez longtemps, genre les six premiers mois ou la première année, c'était on est en guerre contre l'Ukraine, contre des soi-disant nazis, mais depuis plus d'un an, c'est on est en guerre contre l'OTAN. Ils disent Nash et les autres, c'est-à-dire les nôtres, les autres.
C'est pas la Russie qui fait la guerre, la Russie se défend contre une agression.
Donc en fait.
Mais ils ont envie d'en découdre, ou bien ils se disent comment tout cela va-t-il se terminer, un peu effrayé?
En fait, si vous pensez que vous êtes attaqué.
Oui. C'est... Voilà. Et d'ailleurs, en fait, depuis la prise de parole d'Emmanuel Macron et le revirement où on envisage d'envoyer donc des hommes ou des troupes, il y a clairement une mobilisation de toutes les chaînes et tout l'instrument de propagande et donc de beaucoup de Russes d'ailleurs qui disent mais en fait vous nous faites la guerre. Ça justifie presque. Et d'ailleurs Medvedev a dit on tuera jusqu'à les Français seront les premiers à être tués par nos vaillants soldats. Donc il y a quelque chose qui est réussi à unir le peuple derrière lui dans cette guerre qui est une guerre contre l'Occident, contre l'OTAN, et qui est persuadée aujourd'hui, une grande partie de la population, qu'on veut la destruction de la Russie et de la puissance russe.
C'est vrai que Medvedev, à chaque fois, oui. Est en avance d'une violence.
Il veut se faire pardonner, et c'était l'homme des contacts avec l'Occident, c'était l'homme qui représentait l'ouverture, et donc il a beaucoup à se faire pardonner aux yeux des faucons russes.
Il fait de l'excès de zèle.
Hier, c'était le premier à accuser l'Ukraine, et à dire on va tous se venger. Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Roland dans le Val-d'Oise, comment manifester notre sympathie au peuple russe? Emmanuel Macron doit-il s'adresser directement à lui? Alors il y a eu un communiqué hier où Emmanuel Macron a fait part de sa solidarité envers le peuple russe.
Comment manifester sa solidarité, comme les Russes l'ont fait au moment où la France a été touchée. Je crois profondément que la douleur du peuple russe nous rappelle à nous notre douleur et qu'il y a à avoir une profonde empathie envers le peuple russe. La ligne politique est une autre chose. Ce sont des familles qui ont été touchées alors qu'elles assistaient à un spectacle.
Wassim Nas, question d'Émilie en Suisse. Est-ce vraiment le mode opératoire de Daesh que de fuir après un attentat? On en parlait tout à l'heure. Généralement, nous dit Émilie, les terroristes meurent après en martyrs.
Ça dépend quel était le plan. Si on regarde, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, les attaques du 13 novembre, ici à Paris, ils ont tourné, ils ont attaqué plusieurs lieux, le Bataclan, le Stade de France, et puis le logisticien, on va dire, de l'attaque, Abaoud, a été rattrapé deux jours plus tard ailleurs, alors qu'il présageait de faire un attentat à la Défense. Donc c'est pas une science exacte. C'est-à-dire, on ne sait pas quel était leur plan. Peut-être qu'eux-mêmes, comme les frères Kouachi, ne savaient pas qu'ils allaient s'en sortir. Donc ils n'avaient même pas de plan B. C'est ça aussi l'option la plus plausible, à mon avis. Ils font cette attaque, ils ne s'attendent pas à que les forces de l'ordre arrivent 3 heures plus tard, ou 1 heure plus tard. Ils se disent, on va mourir arme à la main, sauf que personne n'arrive. Ouais. Ben, ils partent, mais sauf qu'ils partent sans plan B. Les frères Kouachi, c'était exactement ça. Les frères Kouachi ne savaient pas où aller se cacher parce qu'ils pensaient mourir dans les locaux de Charlie Hebdo.
Parce que, Alban le disait tout à l'heure, la police a mis une heure pour arriver.
L'attaque se produit à 20h15, heure russe. Le théâtre est encerclé à 21h07. Voilà. Alors, il passe 52 minutes.
C'est de l'amateurisme, ça, en Europe. On réagirait bien plus vite en Europe de l'Ouest.
Ça dépend. Non, je dirais, franchement, je dirais pas ça, parce que on ne sait pas comment ça s'est goupillé sur le terrain. Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu, mais en tout cas, je pense que eux-mêmes, donc les terroristes, savaient pas qu'ils allaient durer aussi longtemps et ne savaient pas que, en fait, sortis du truc, ils ne savaient plus où aller. Et encore une fois, je répète, je me permets de répéter, les frères Kouachi, c'était exactement ça.
Pascal Boniface, Cynthia dans le Nord, cet attentat renforce-t-il notre inquiétude pour les JO ?
Oui, forcément. Enfin, de toute façon, l'inquiétude existait avant l'attentat. On sait très bien que quand on organise un événement comme les JO, c'était pareil qu'on a fait l'Euro en 2016. Le souci prioritaire, c'est la sécurité. Pour tout grand événement, même pour le 31 décembre, quel est le souci ? C'est la sécurité.
Dès
qu'on organise quelque chose, c'est la sécurité qui est le danger.
On craint quoi ? Un attentat kamikaze, une attaque de drone ?
Tout peut arriver, effectivement. Quelqu'un peut déposer un sac avec une bombe, quelqu'un peut se faire sauter, il peut y avoir cela. Même au Brésil, pourtant le Brésil est un peu en dehors des zones de conflit. Tant pour la Coupe du Monde que dans les JO, il y avait des policiers et des militaires partout, parce que même le Brésil craignait un attentat. Donc dès que vous organisez un concert, un événement sportif, et dès qu'il y a des caméras, dès que le monde entier est quelque part, et les JO, effectivement, mais donc, voilà, on sait bien qu'il n'y a pas de sécurité absolue, on sait très bien que, bon, tout peut arriver, même si toutes les précautions sont prises, mais l'angoisse des dirigeants français, de Darmanin à Macron, etc., c'est que tous les débats sur le défilé sur la Seine, l'ouverture, etc., c'est effectivement la sécurité. La sécurité, et non seulement pour les spectateurs, mais pour les athlètes américains, les athlètes israéliens, les athlètes... Bon, donc c'est la sécurité. Et maintenant, depuis très longtemps, enfin depuis 20 ans, plus de 20 ans, le budget le plus important pour ce type d'événement, c'est le budget de sécurité, qui a augmenté dans les proportions très grandes. Avec les militaires, on a les policiers, et puis il faut embaucher des agents de sécurité privés qu'il faut former, parce qu'il y a là des besoins de recrutement.
Qu'il faut choisir. Ouais, c'est assez efficace, parce qu'on se dit... C'est pas très compliqué, finalement, on se dit, de se faufiler avec une arme et de semer le chaos.
Mais dans la vie quotidienne aussi.
Bah oui, ça fait partie du schéma de la vie qu'on vit actuellement. Partout, en fait, dans le monde. Et si on fait un petit pas en arrière, on revient dans les années 70-80, c'était pareil, voire pire. Il y avait des voitures piégées, des attaques aux armes, avec tirer les gens, tirer dans les rues, etc. En Italie, en France, voilà. Donc ça fait partie du schéma. Il y a plusieurs couches. Il y a les attentats au couteau, les attaques au couteau, et il y a les équipes projetées, comme celle du 13 novembre, qui reste une exception. L'attaque à Moscou, c'est une exception. Donc tous les attentats qui étaient revendiqués avant en Russie étaient plutôt des échecs, quoi. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête. Tout ne se vaut pas. Évidemment, il y a un risque, mais on ne peut pas traiter et à réagir, en tout cas, à un coup de couteau comme on réagit à un 13 novembre ou un 11 septembre. Donc ça fait partie de l'équation, c'est pris en compte et il faut apprendre, tant bien que mal, à vivre avec.
Alban Mikozy, Alain, Vladimir Poutine prépare-t-il les Russes à une mobilisation générale ?
J'en sais rien.
Bon, Manon Loiseau, est-ce qu'il y a des signaux qui laissent à penser qu'en tous les cas, le pouvoir russe est en train de se durcir, ou en tous les cas prépare son peuple un jeu plus musclé. Est-ce que c'est ce que vous avez, est-ce que c'est vous êtes dit en écoutant Vladimir
c'est
Poutine
ce que
cet après-midi?
Je me suis dit en l'écoutant. En même temps, le jeu est quand même très musclé depuis 2 ans.
Ouais.
Mais c'est vrai que ça, avec la grande offensive qu'il y a depuis 3 jours qu'on observe sur l'Ukraine, moi je parlais des amis ukrainiens depuis 3 jours, ils sont épuisés, mais épuisés. Justement, des amis à Kharkiv, à Kiev, ces attaques de drones, ces attaques de missiles sans fin, c'est avec en plus une difficulté pour les Ukrainiens de mobiliser parce que les jeunes ne veulent plus y aller. Il n'y a plus assez d'armes. Donc c'est vrai que c'est un moment là extrêmement dur pour les Ukrainiens. Donc,
la mobilisation générale ne sera pas obligatoire.
Je pense qu'il est effectivement dans une toute puissance.
Il faut quand même garder quelque chose en tête qu'on a déjà dit, c'est que vu cet événement qui est quand même une faille pour le pouvoir russe, il est obligé de faire des mesures pour retourner la situation à son avantage. Après, est-ce qu'il va utiliser cette carte ou pas? C'est encore autre chose. C'est-à-dire que c'est les Ukrainiens, c'est une carte en main. Après, est-ce qu'il va la mettre en œuvre ou pas? C'est autre chose.
Est-ce que, Pascal Boniface, on peut espérer que dans l'entourage de Poutine, il y en ait un qui se dit, mais où nous mène le chef du Kremlin? Le pays n'est pas tenu, il y a un attentat hier qui a fait 133 morts.
Il y a peut-être des gens qui pensent ça, mais je ne pense pas qu'ils le disent.
Mais on peut espérer que certains préparent un coup, un contre. Comme Wagner, on a vu le pouvoir flageolant avec Prigogine en juin dernier.
Donc on a vu comment ça s'est terminé.
Ça refroidit quand même les ardeurs. C'est un système pas totalitaire, mais quasi. Et donc, effectivement, les gens ont peur dans son entourage. Ils ont peur de le contredire, ils ont eu peur de lui dire qu'il ne fallait pas aller en Ukraine, etc. Donc, il gouverne quand même par l'adhésion d'une partie de la population, mais aussi par la peur.
Bien, ben merci beaucoup de nous avoir aidé à décrypter cet attentat hier de Moscou à Moscou où Vladimir Poutine donc a même pointé l'Ukraine dans son allocution. Vous restez sur France 5 à suivre C'est l'Hebdo et je rappelle que C'est dans l'air est disponible en podcast sur toutes les plateformes gratuitement. Bonne soirée sur France 5. Lundi, nouveau C'est dans l'air avec Caroline Roux.
Vous venez d'écouter C'est dans l'air, c'est un podcast France Télévisions. N'hésitez pas à vous abonner, C'est dans l'air est disponible gratuitement sur toutes les plateformes audio, en vidéo, disponible sur francetv.fr. À très bientôt.